Mon Dieu, comme ils sont beaux, les tremblants animaux que le givre a fait naître la nuit sur ma fenêtre, que le givre a fait naître la nuit sur ma fenêtre. Ils broutent des fougères dans un bois plein d'étoiles, et l'on voit la lumière à travers leur corps pâle, et l'on voit la lumière à travers leur corps pâle.
Nous sommes à quelques jours de Noël et je vais consacrer le temps de cette émission à vous présenter un conte de Noël, L'Enfant de Neige. L'Enfant de Neige est un conte d'un ami de la basse marche, Georges Emmanuel Clancier. Connaissez-vous le Limousin ? C'est au centre de la France un pays de collines, de sources, de vallées, de prairies et de châtaigneraies. Un vieux pays où longtemps la vie dans les villages, les hameaux et les fermes ne changeait guère. Pareil au cours des siècles dont ses travaux, ses peines et ses joies. Les hivers y étaient rudes, souvent enneigés, du moins presque chaque jour, dès la nuit tombée, les veillées au coin du feu permettaient aux familles de se distraire en mangeant des châtaignes rôties et en écoutant le grand pays raconter les histoires, les légendes qui avaient fasciné leur jeunesse. Voici l'une de ces histoires, celle de l'Enfant de Neige. L'aïeul qui me la conta affirmait qu'elle était vraie, qu'elle s'était véritablement passée de ce qu'elle était elle-même encore une fillette. Elle ajoutait aussi que certainement ces événements miraculeux se reproduiraient un jour ou l'autre et qu'alors on serait bien forcé de croire à l'Enfant de Neige, parce qu'il reviendrait au village étincelant de blancheur. C'était donc par une nuit d'hiver, pas loin du village de Saint-Sylvestre. Un couple de paysans rentrait d'une veillée qui s'était tenue chez des cousins à eux, assez loin de leur propre ferme. Ils marchaient, courbés contre la bise, s'efforçant de ne pas s'éloigner du sentier qui souvent disparaissait sous l'épaisse et douce couverture blanche. L'homme, Jean Prade, était un robuste fermier d'une quarantaine d'années. Mariette, sa femme, paraissait plus jeune et plus frêle. « Il me tarde d'être rendu au Clos Châtain, » dit Jean. « J'espère que le feu ne sera pas éteint, » remarquait Mariette. « Il fait si froid. » Elle soupirait, puis « Il fait plus froid, encore bien plus froid dans mon cœur. Vois-tu, Jean ?» Le sort est contre nous.
Le sort ?
Ben oui. Nous n'avons pu, nous ne pourrons pas avoir d'enfants. Et j'aurais tant aimé avoir des fils, des filles, les cajoler, les voir grandir auprès de nous. Je te comprends, Mariette. Mais ne pense plus à cela. Tu te rends malheureuse. Parfois, du coin de ma fenêtre, je regarde les enfants des voisins. Je me dis... Toi, Brunet, petit galopin, tu pourrais être notre garçon. Tu ressemblerais à mon Jean. Et toi, Blondinette, tu serais ma fille de 10 ans. Le matin, je tresserais tes nattes. Ton père serait fier de ta beauté. Il dirait en riant, « Te voilà, demoiselle, bientôt. Il faudra songer à te marier, petite. » Je t'en prie, Mariette, tais-toi. Tes paroles... nous font souffrir. » De nouveau, il se taisait et continuait à marcher difficilement dans la neige. La lune s'était levée, toute joufflue. Elle paraissait proche des monts d'Ambazac qu'elle inondait de sa lumière bleue. Bientôt, l'homme et la femme aperçurent là-bas, encore loin devant eux, à la lisière d'une châtaigneraie, les toits de leur ferme du Clos Châtain. quand ils ne furent plus qu'à une centaine de pas de leur maison, ils s'arrêtèrent soudain, étonnés et inquiets. « Tu vois, Mariette, » demanda le fermier, « qu'est-ce qu'il y a dans la cour ?»«
Ben, je vois, »
murmura la femme, « ça ne bouge pas. C'est blanc ou bleu, un lutin, un drac qui nous attend. J'ai peur, Jean. » Ils étaient là, debout dans le froid, ne sachant que faire. Enfin, l'homme s'enhardit. Malgré les supplications de son épouse, il marcha vers l'être ou la chose qui semblait les attendre. En effet. Et soudain, il éclata de rire. Il riait à en perdre haleine. Enfin, il parvint à se retourner pour crier à sa femme de demeurer en arrière. « Oh, Mariette, ton lutin, ton drac, c'est tout simplement un bonhomme de neige. » Les gosses ont dû le façonner pendant que nous étions à la veillée chez les cousins. Ah ben voilà ce que c'est que d'écouter des histoires de sorcières, de loups-garous, de revenants, de draques à la veillée. Nous aurons eu peur d'un bonhomme de neige. La fermière, rassurée, s'approcha à son tour de ce qui, de loin, lui avait paru un être surnaturel. Mais elle ne riait pas. « Regarde, on dirait quelque enfant perdu, un petit abandonné par ses compagnons de jeu. Alors il s'est arrêté à notre porte comme s'il voulait chercher refuge chez nous. Hey, »« Hé, Mariette, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà que tu t'agenouilles maintenant devant ce tas de neige? Mais ma parole, elle le prend dans ses bras? Mais tu vas le faire fondre, et toi tu seras toute mouillée. Mariette, ma petite Mariette, mais quoi? Tu pleures? Pardonne-moi, Jean. Je pense à cet enfant qui nous manque tant. Nous l'aurions tellement aimé. Et alors, cette statue de neige, ce bonhomme tout blanc, tout glacé, je voudrais un miracle. Je voudrais qu'il s'anime, je voudrais qu'il vive. Ma pauvre femme, je crains que ta tête se dérange. Hein. Il faudra qu'on aille demander ses tisanes à la Margot. On dit qu'elle est un peu sorcière.
Oh, vois,
la chaleur de mes bras, de mes mains, de mes larmes, vois, ça fait fondre la neige. La carapace de neige. Miracle, Jean, ce n'est plus une boule comique qui sert de tête au bonhomme, c'est un visage. Un vrai visage. Mince, fin, si pur. C'est la figure d'un enfant. Allons, relève-toi. Tu vas me faire devenir fou à mon tour. Ça ne peut être un visage, peut-être un masque que les garnements auront caché sous la couche de neige. Je te jure, Jean, il a ouvert les yeux, il me sourit. Tiens, à présent tout son manteau blanc a fondu. Regarde, il bouge, il lève un bras. Il vit, il vit. Grand Saint Martial, c'est idiot possible, mais c'est pourtant vrai. Un enfant, un garçon. Oh, il referme les yeux, il redevient immobile. Pourvu qu'il ne redevienne pas une statue. Non, mais non. Il s'endort seulement. Pense donc, depuis combien d'heures il nous attendait là, planté dans son moule de neige. Il n'en peut plus, le pauvret. Tiens, prends-le dans tes bras. On va le porter à la maison. Il est trop lourd pour moi. Oui, mon garçon. Oh bah, il n'est pas si lourd. Et même pour un garçon de... Combien? 10 ans? 11 ans, on dirait. Il ne pèse guère plus de... Comme s'il était en plume. La fermière ouvrit la porte. Le fermier entra dans la salle commune et déposa sur un fauteuil devant la haute cheminée l'enfant mystérieux toujours endormi. « Chance, » dit à voix basse Mariette, « il reste encore des tisons dans la cendre. Je vais faire reprendre le feu pour réchauffer le petit. Comment a-t-il pu résister emprisonnée dans la neige. Elle alla chercher une brassée de branches qu'elle jeta sur les braises et aviva celle-ci en maniant prestement le soufflet. Une flamme jaillit qui, d'un coup, fit du bois sec une torche. Au même instant, le garçonnet s'éveilla avec un cri de terreur. Il sauta à bas du fauteuil et courut se réfugier loin du feu dans un coin d'ombre. De là, il pointait une main tremblante vers le foyer. Nos deux fermiers stupéfaits demeuraient bouche bée. D'une voix douce, un peu chantante, le garçon déclara, toujours en désignant la flamme, « C'est terrifiant et fascinant, magnifique et cruel. »«
Comme il parle !» dit en soupirant la fermière. « Il parle bien pour son âge. »
« Il parle mieux que nous, » reprit l'homme. « Il sait des mots que nous, on ne nous a pas appris. »« Comment vous appelez cela ?» demandait la voix douce.
« La flamme, le feu. » Il répéta, « La flamme, le feu. »
En faisant siffler le feu, puis souriant au couple,
« Je ne puis m'approcher. La flamme, le feu me ferait disparaître. »
Alarmée, la fermière vint vers lui dans le coin où il se blottissait.
« Mon petit, c'est vrai que tu es fragile, tu es si pâle. Laisse-moi mieux te regarder. Tu es beau comme un prince au teint de neige, aux cheveux d'or, aux yeux couleur de ciel.
Et nous qui voulions te protéger, te réchauffer en allumant ce grand feu, au lieu de cela... nous te mettrions en danger. » Le jeune garçon sourit, prit dans ses mains fraîches les mains de la fermière.
« Il n'y a qu'une façon de me réchauffer, comme vous dites, c'est de m'aimer.
C'est votre amour qui m'a tiré de la neige, qui m'a fait vivre.
Je suis l'enfant de votre amour, Mariette et Jean, ma mère et mon père. »
Notre enfant, il veut bien être notre fils, tu entends, Jean?
Comment va-t-on l'appeler, notre enfant de neige?
Et si nous l'appelions Noël, Noël, n'est-ce pas une fête de neige?
Le garçon répéta en riant, Noël, Noël. Puis il redevint grave.
Ainsi je m'appellerai Noël, dit-il. Et cette chose là-bas, cette chose où cette bête rouge, blanche, dorée qui danse et qui m'a fait peur, vous l'appelez le feu?
Est-ce toi, père, qui a inventé le feu?
Oh non, mon fils, non. Certains disent qu'il est invention de l'homme. D'autres veulent y voir l'œuvre du diable.
Moi, je pense qu'il est le fils du soleil. Tu en as peur?
Et c'est vrai qu'il peut être terrible, c'est vrai qu'il est comme une danse de joie.
Tu verras, pour ma fête, à la Saint-Jean,
quel beau feu de joie justement on dresse sur la place du village et comme on danse tout autour.
Mais là, le fermier s'arrêta tout penaud en s'apercevant que Noël, l'enfant de neige, dormait dans son coin à poing fermé.
Alors, avec précaution, l'homme et la femme le prirent dans leurs bras, le montèrent à la chambre du nord et l'étendirent sur le lit. Ensuite, ils regagnèrent leur propre chambre, mais une fois couchés, ils ne parvenaient pas à s'endormir.
Ni l'un ni l'autre n'osa se relever et monter à la chambre du Nord pour s'assurer de la présence de la réalité de l'enfant de neige. Ils restèrent toute la nuit sans pouvoir fermer l'œil. Dès l'aube, ils étaient debout inventant de menus travaux pour se cacher leur inquiétude. Ils ne purent réprimer un cri de joie lorsque Noël, les yeux encore ensommeillés, apparut dans la cuisine, puis de ses lèvres fraîches posa un baiser sur leurs joues.
Le fermier et sa femme durent aller au village. Avant de partir, ils recommandèrent à l'enfant de neige de les attendre sagement, soit dans la cuisine, où ils avaient installé devant la cheminée une sorte de paravent pour que la chaleur et l'éclat du feu ne risquent pas de blesser le garçonnet, soit, s'il préférait, dans la chambre du nord, d'où par la fenêtre il pourrait regarder la campagne toute blanche jusqu'à l'horizon. Quand ses parents furent sortis, Noël s'empressa donc de remonter dans sa chambre et s'installa à la fenêtre. Il ne tarda pas à voir arriver sur le chemin qui venait du bourg une troupe d'enfants qui se bousculaient en riant. C'étaient 5 ou 6 garçons de son âge et avec eux une petite fille blonde aux joues roses qu'ils appelaient Toinette. De temps à autre, elle s'arrêtait, mettait ses mains blanches et criait « Ça suffit les garçons ! Avez-vous fini de vous chamailler ? Pierre, passe de ce côté. Toi, Paul, reste ici. Tous deux, vous êtes comme chien et chat. » Les garnements grognaient, grimaçaient, mais finalement obéissaient à Toinette et la petite troupe reprenait sa marche. Là-haut, Noël était tout heureux de les voir approcher. Cependant, il n'osait pas descendre pour aller à leur rencontre, ayant promis à ses parents adoptifs de ne pas quitter la maison en leur absence. Il restait donc dissimulé dans le coin de la fenêtre et de là, il ne perdait pas de vue les enfants et entendait leurs propos, tandis qu'eux ne pouvaient guère l'apercevoir. Bientôt, la petite bande pénétra dans la cour devant la ferme. Le plus grand des garçons, un brun un peu rougeau, celui que la fillette avait appelé Paul, se planta soudain et tendit les bras pour arrêter ses amis. Toinette se plaça à côté de lui. « Les gars !» demanda-t-il. « Vous voyez ce que je vois ?»« Quoi donc ?» demanda celui qui devait être Pierre. Il avait les cheveux châtains, des taches de rousseur sur le visage, un air rieur et malin. « Eh bien, vous ne voyez pas qu'il n'y a rien ?» Toinette éclata de rire et les autres garçons l'imitèrent. Le grand Paul sembla furieux. « Tas d'imbéciles ! Pourquoi riez-vous ? Là où il n'y a rien, il devrait y avoir quelque chose !» « Ah, mais c'est vrai !» cria Toinette. « Notre bonhomme de neige, celui que nous avons dressé hier soir ici même, notre bonhomme a disparu !»« Par exemple, ça alors, c'est un peu fort !» soupirèrent ou marmonnèrent les autres enfants. « Avec ce froid, il n'a pas pu fondre !» reprit Toinette. « Ah, mais c'est cette brute de fermier et sa brute de femme, Jean et Mariette Prade, ce sont eux qui ont dû le démolir pour nous faire bisquer, » déclara le grand Paul. « Il faut se venger !» ajouta-t-il. « Oui, oui, c'est vrai, il faut se venger !» affirmèrent les garçons. Seule Toinette et son ami Pierre semblaient garder leur calme. « Les Prades sont de braves gens, » remarqua le garçon aux taches de rousseur. « Ils adorent les enfants, » renchérit Toinette. « Ils n'ont certainement pas détruit le bonhomme de neige !» parce qu'il n'aurait pas voulu nous faire de la peine. « Mais c'est toujours pareil, » dit Paul avec colère. « Celui-ci dit toujours le contraire de ce que je dis, et Toinette, tu lui donnes toujours raison. »« Gros jaloux !» fit en riant la fillette. Paul devint encore plus rouge. « Ce que ça peut être chaud, les filles !» Et soudain, il se baissa, ramassa une grosse poignée de neige, la tassa entre ses mains jusqu'à ce qu'elle devint presque aussi dure qu'une pierre. Il la lança à toute volée vers une fenêtre. La boule s'écrasa sur le châssis de bois. « Allez les gars !» s'écria-t-il. « Faites comme moi, on va casser les carreaux des Prades puisqu'ils ont démoli notre bonhomme de neige. » Déjà, les garnements, à l'exception de Toinette et de Pierre, se baissaient, prenaient de la neige à pleine main, la tassaient, comme avait fait Paul. Ils s'apprêtaient à lancer leurs projectiles contre les vitres de la ferme, lorsqu'une voix claire et décidée les fit s'immobiliser. « Arrêtez, arrêtez !» ordonna la voix. « Je vais vous expliquer. » Ils se regardaient tous stupéfaits. D'où pouvait venir cette voix enfantine qui n'avait pas leur accent campagnard? Ils étaient pourtant les seuls enfants présents ici. Ce fut Toinette qui résolut l'énigme. « Regardez, regardez !» dit-elle. « Là-haut, à la fenêtre. » Ils tournèrent ensemble la tête dans la direction qu'elle leur désignait du doigt. Noël se penchait à la fenêtre pour leur parler. Il avait pensé que c'était son devoir d'intervenir pour empêcher les galopins d'attaquer la maison de ses parents d'adoption.
« Qui es-tu ? »
demanda Paul en fronçant les sourcils. « Le fils de Mariette et de Jean Prade ?»«
Menteur ! Les Prades n'ont pas d'enfants. »
Ils n'en avaient pas. Mais cette nuit, ils m'ont trouvé.
« Un enfant trouvé ?»
murmura Toinette. Elle avança, se plaça devant Paul en lui faisant signe de se taire.
« Et où t'ont-ils trouvé ? » demanda-t-elle d'une voix douce.
« Dans votre bonhomme de neige. » Firent à l'unisson les enfants. Cette révélation les laissait bouche bée. Ce fut une fois encore le grand Paul qui se rebiffa.
« Non mais, vous entendez, il nous prend pour des idiots, ou quoi ?»
Il montra le poing à leur mystérieux interlocuteur là-haut.
« Si tu n'es pas un lâche, hein, descends un peu ici nous raconter tes contes à dormir debout. »
Toinette, de sa petite main, contraignit son camarade coléreux à baisser le poing. De l'autre main, elle prit le bras du gentil Pierre, puis elle sourit à l'enfant de neige. « Moi ?» lui dit-elle, « je sais que tu n'es ni lâche ni menteur. Mais nous serions tous bien contents de faire ta connaissance si tu voulais descendre. »
Quel beau sourire elle a, songeait Noël.
Moi aussi, répondit-il, j'aimerais faire votre connaissance.
Je descends.
Donc l'enfant de neige descend de la chambre du Nord et finalement il deviendra l'ami de la joyeuse bande et en particulier l'ami de Toinette. Et bien souvent ensemble, ils parcourent la campagne pour jouer, pour s'amuser jusqu'à cet après-midi du mois de juin. Un après-midi de juin, ses camarades du village vinrent lui rendre visite. Voilà bien longtemps qu'il ne l'avait fait, et il avait fini par penser qu'il ne les reverrait pas avant son départ. Aussi fut-il très heureux de les retrouver et de constater que, malgré les apparences, il ne l'avait pas oublié.
Mais, remarqua Toinette, ce soir c'est la Saint-Jean.
« Dans un instant, nous allons te quitter pour aller sur la place du village. On va y allumer le feu, le grand feu de la Saint-Jean. On va danser, on va faire la ronde.
Demain, je regagnerai les nuages, » se disait l'enfant de neige.
Il ne voulait pas s'avouer le remords qui le prenait à l'idée que demain, Jean et Mariette Prade, en découvrant sa chambre vide, seraient bien tristes. « Je saurais m'introduire dans leurs rêves la nuit, » se dit-il pour se rassurer, « et comme cela, je les consolerais, je leur ferai comprendre que je reviendrai ici dès que la première neige sera de retour. »«
Regarde !» s'écria Toinette.
Comme il débouchait sur la grande place, en son milieu, on allumait le feu de joie.
Un d'émerveillement et de satisfaction parcourut la foule assemblée tout autour de la place.
« Le feu !» murmura Noël. « Qu'il est beau et qu'il est effrayant. On dirait un animal rouge et or, un animal sauvage qui bondit, se torse, se cabre, s'élance, retombe et s'élance de nouveau. On dirait aussi qu'un bout de soleil est tombé en flamme sur la terre. »
Le gros Paul marmonnait, goguenard. « Vous entendez ? Noël parle comme ces poésies qu'on nous fait apprendre à l'école. N'empêche que tout à l'heure, il n'osera pas sauter le feu avec nous.
J'espère bien qu'il ne sautera pas, dit Toinette. Ce serait trop risqué.
Crois-tu ? Fit l'enfant de neige.
Le feu ne peut pas me brûler. Il peut me changer en fumée, en vapeur, mais il ne peut pas me détruire.
Mais, se plaignit la jeune fille, je ne te verrai plus.
Tu ne me verrais plus, mais moi je continuerai à te voir. Et si tu apprenais à écouter le vent, à savourer l'air, tu m'entendrais, tu me sentirais près de toi jusqu'à ce que tu me retrouves là-haut sur les montagnes enneigées pendant tes vacances.
À ce moment, on entendit des appels venant de la campagne.
« Enfant de neige, Noël, mon fils, où es-tu ?» C'était la voix de Mariette qui implorait. Noël se tapit dans l'ombre et bientôt il vit Mariette et Jean Prade déboucher sur la place.
« Cachez-moi »
dit-il à ses amis. « Sinon, ils vont me reconduire dans la chambre du Nord et ils barricaderont la fenêtre et je ne pourrai pas m'échapper.
« Quel quoi !»
fit Paul en se moquant.
« Il a peur de ses parents, il a peur du feu, je vous l'avais bien dit, il a peur de tout !»
Là-bas, les jeunes gens téméraires commençaient à sauter par-dessus le feu de joie.
« Bah ça, c'est des hommes !» siffla admiratif le gros Paul. « C'est pas des bons hommes de neige !»«
Eh bien, répliqua Toinette, toi qui es si fort, fais comme eux, saute le feu de Saint-Jean !»
C'est qu'il est encore trop haut, marmonna Paul, tout penaud.
Pendant ce temps, Mariette et Jean Prade, qui allaient de groupe en groupe, s'étaient approchés des enfants. Noël se dissimulait derrière Pierre et Toinette. Il entendait les fermiers se quereller.
Je te dis de laisser ce petit tranquille, ordonnait le père.
Il en a assez de sa chambre du Nord. Moi, je le comprends.
Tais-toi, protesta Mariette.
Que va-t-il devenir si nous ne le retrouvons pas?
Tu sais, un oiseau des bois que tu mets en cage, s'il s'échappe, il retrouve les arbres et le ciel. Notre enfant de neige fera de même.
Alors, hélas, nous ne le verrons plus.
Mais nous le sentirons partout, tout autour de nous.
À ce moment, le gros Paul fit signe à la fermière. Il n'avait jamais cessé d'être jaloux de l'enfant de neige, le gros Paul. Pendant les semaines où Noël restait enfermé, le jaloux s'était enfin senti tranquille. Pierre et Toinette lui obéissaient de nouveau. La fillette ne songeait plus à se moquer des maladresses du Rougeau. Tout allait bien pour lui. Et maintenant, voilà que ce petit prince blanc, ainsi Toinette décrivait-elle Noël, voilà qu'il allait de nouveau se mêler à leur jeu. C'est pourquoi le jaloux fit signe à la fermière, lui désignant Noël, accroupi derrière ses deux amis.
« Noël, je te tiens !» cria Mariette.
Comme elle s'avançait vers lui, l'enfant de neige fit un pas de côté et lui échappa. Se retournant vers elle et vers Jean Prade, il leur dit
« Pardonnez-moi,
je vous aime, vous le savez bien. Mais voilà !» La liberté m'est indispensable comme l'est pour vous l'air que vous respirez. » De la main, il leur renvoya un baiser. Il fit de même à l'intention de Toinette.
« Ne m'oubliez pas. Un jour, je reviendrai parmi vous, » cria-t-il.
Avec un sourire de malice, il ajouta en dévisageant le gros Paul,
« Et maintenant, toi qui es si fort, si courageux, suis-moi, si tu l'oses. »
Il s'élança, franchit en quelques enjambées l'espace qui le séparait du feu de joie dont les flammes jaillissaient encore trop haut pour que les enfants pussent sauter par-dessus le brasier. Mais lui accéléra sa course et hop, d'un bond prodigieux, il sembla s'envoler. Le reflet du feu, un instant, fit étinceler son habit blanc, puis plus rien. On ne vit plus qu'une légère fumée blanche s'élever vers le ciel, cependant qu'une voix frêle et fraîche, dont nul ne savait d'où elle venait, de la nuit, des étoiles qui soudain brillaient intensément, répétait Souvenez-vous de l'enfant de neige. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche qui fut consacrée à l'enfant de neige, un conte de Georges-Emmanuel Clancier. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel aux compositeurs Jean-Sébastien Bach, Nino Rota, au quartet Tarkovski, au groupe Maluzerne, aux chanteurs James Olivier et Annie et Jean-Marc Versini. À très bientôt donc.
Elle frappe à la porte dans son manteau rouge et blanc. Allons voir ce qu'il apporte. Père Noël, des cadeaux pour les enfants.
Il a le nez tout gelé et la barbe comme un glaçon.
Laissons-le se réchauffer dans notre maison.
Père Noël frappe à la porte dans son manteau rouge et blanc. Voir ce qu'il apporte, Père Noël, des cadeaux pour les enfants.
Nous avons mis nos souliers sous le sapin décoré
et du bon bois à brûler dans la cheminée.
Père Noël frappe à la porte dans son manteau rouge et blanc. Allons voir ce qu'il apporte, Père Noël, des cadeaux pour les enfants.
Je vais avoir ma poupée avec ses jolis jupons.
Moi, je lui ai commandé un très gros camion.
Père Noël frappe à la porte dans son manteau rouge et blanc. Allons voir ce qu'il apporte, Père Noël, des cadeaux pour les enfants.